La visite du pape à Lampedusa, il y a 3 ans, avait été un détonateur à beaucoup plus d'empathie justement pour le sort des migrants qui traversent la Méditerranée dans des conditions absolument abominables. Et donc, je suis ravie que le Saint-Père aille à Lesbos, encore une fois qu'il lance son message de compassion. Je crois qu'il faut tout le temps rappeler, et notamment aux Européens, que nous avons un devoir de solidarité et de soutien à des gens qui sont dans des situations absolument terribles.
Est-ce que vous pensez que cette visite peut aussi être un détonateur ?
Oui, je pense. Évidemment, on est dans une situation d'urgence. On a d'une part une capacité d'accueil qui est encore en train de se mettre en place et qui est limitée par le fait qu'on a des opinions publiques qui ont du mal encore à accepter. Il y a certains de nos gouvernements qui sont encore hésitants sur ce genre de questions. C'est une décision qui est politiquement très très sensible et qui ne peut pas être prise par 28 gouvernements dans un délai de 6 mois, 1 an. C'est une situation qui est très très difficile à faire avancer, notamment sur la question des quotas et autres. Alors, le fait que le Saint-Père aille à Lesbos, je pense que c'est très bien parce que ça va motiver l'opinion publique européenne. Parce que notre grand problème à l'intérieur de l'Europe, c'est vraiment qu'on a actuellement une montée de mouvements populistes qui, disons, surfent sur cette question de l'immigration et du risque pour nos cultures et du risque pour notre confort même, hein, il faut le dire. Donc, je pense que le fait que le Saint-Père fasse passer un message à la fois au gouvernement, mais surtout aux opinions publiques, en leur montrant que dans la nature européenne, dans les fondements européens, notre raison d'être, c'est de respecter les droits de l'homme, c'est d'avoir un principe de solidarité, un principe de générosité.
Vous avez parlé de 6 mois d'un travail intense, effectivement c'est très bref comme délai. Est-ce qu'il y a une évolution et quelle est-elle au niveau des 28, évidemment pas individuel, vis-à-vis de cette crise des réfugiés ?
C'est une évolution qui est lente, disons qu'il y a un dialogue. Le plus important c'est de ne jamais arrêter le dialogue. Il est certain que pour certains États membres qui ont une tradition d'immigration, c'est plus facile de comprendre l'opportunité finalement d'ouvrir son pays à la migration, parce que la migration, ce n'est pas forcément une charge, une sorte de handicap pour un pays. Au contraire, ça peut être une chance aussi, je veux dire. Mais il faut du temps pour qu'on puisse justement avoir cette espèce de discussion et de réflexion dans l'ensemble de l'Europe, et surtout que cette réflexion se descende au niveau des opinions publiques, de la société civile.
Il y a quand même un accord qui a été pris, qui est critiqué, on le voit, on l'entend, même par le Conseil pontifical pour les personnes en déplacement. Oui. Vous avez sans doute entendu parler des commentaires de Mgr Velio. Comment le défendre ?
Je dois dire que j'ai aucune difficulté à le défendre. Aujourd'hui, la seule solution pour arrêter le système de transport clandestin des migrants, c'est de renvoyer d'où ils viennent les migrants qui ont utilisé ce transport clandestin. C'est un système qui paraît extrêmement dur, qui paraît extrêmement injuste, mais c'est la seule solution pour arrêter un trafic qui coûte des vies, qui tue des enfants, qui permet ensuite à des passeurs de négocier éventuellement avec un système de trafic de personnes, de prendre des enfants, d'utiliser des femmes. Donc il faut absolument qu'on arrête ce trafic. Et la seule façon de le faire, c'est cet accord.
En même temps, est-ce qu'on est certain qu'en Turquie, il y a les moyens nécessaires pour que des migrants qui viennent de Syrie, par exemple, ou d'Afghanistan, puissent être enregistrés, faire une demande d'asile ?
Le système de un renvoi pour un migrant accueilli, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu de l'envoyer sur un bateau avec un gilet de sauvetage qui est factice et qui ne va pas marcher le moment où il va tomber dans l'eau, on va le faire venir directement de Turquie en avion ou en bateau, mais avec un système sûr.
Mais on sait déjà que la Turquie renvoie certains migrants syriens vers la Syrie, des ONG, mais pas seulement, on dénonçait ce phénomène.
On parle d'une part des migrants qui veulent quitter la Turquie et qui vont sur des bateaux. C'est ces gens-là qui sont considérés dans l'accord avec la Turquie. Après, la Turquie, il faut voir la quantité, les millions de réfugiés que la Turquie accueille. Donc, même si la Turquie est un grand pays et que c'est un pays qui a un certain niveau de capacité, il faut quand même lui reconnaître cette charge et ses responsabilités de s'occuper de ces 2 millions de personnes, d'envoyer les enfants à l'école, de donner du travail aux gens si c'est possible. Donc, La seule chose que l'Union européenne peut faire, c'est vraiment c'est aider la Turquie. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'accord, il y a une énorme contribution financière.
Aider la Turquie, mais on sait aussi que c'est le problème des droits de l'homme en Turquie est un point de freinage d'un rapprochement futur entre l'Union européenne et la Turquie.
C'est une question qu'on discute depuis longtemps et je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de mettre les deux choses en équation, même si la Turquie demande effectivement qu'on prenne en compte davantage maintenant ses efforts sur la migration pour lui donner davantage au niveau de la relation avec l'Union européenne. Cela étant, je crois qu'il y a véritablement actuellement un dialogue avec la Turquie qui est assez ouvert, donc c'est ça qui est le plus important. À partir du moment où on a véritablement ce dialogue, et ce dialogue se développe dans des conditions qui nous permettent d'avoir, par exemple, une surveillance de la façon dont les migrants sont traités, et je pense qu'on doit avoir une certaine tolérance, c'est sûr, avec le gouvernement turc.